Bonjour. Ah, ça marche. C'est difficile de continuer après cette annonce. Mais comme nous parlons de Colombie, Ken Grenfell, qui était avec nous il y a 2 semaines, il est en Colombie à ce moment pour soutenir l'Église là-bas. Et Dieu est en train de faire les choses pour l'Église en Colombie. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du livre de Jean. Et on va continuer avec le chapitre 3. Je sais, vous avez tous fait votre devoir. Mais peut-être pour aider nos visiteurs, nous allons lire quelques parties du texte. Jean 3 décrit une rencontre particulière. C'est particulièrement important, qui est la clé de notre foi et de la compréhension de ce que le Christ est venu faire. C'est l'histoire de la première rencontre écrite de Nicodème avec Jésus. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était de partie de pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit de trouver Jésus et lui dit, « Maître, Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fait si Dieu n'est pas avec lui. » Il est un pharisien. Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né, ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répondit, oui, je te déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît des parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Oui. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tout naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naître de l'Esprit de Dieu. Alors, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses? Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment donc me croyez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Car Dieu a... De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde pour lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et son écart, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Qui était Nicodème? C'est une histoire vraiment intéressante. Nicodème est une des plus grands chefs des Juifs à ce moment. Il n'est pas juste une pharisienne. Il est quelqu'un vraiment important dans la foi des Juifs. Il est venu de voir Jésus. Jésus, probablement, l'a entendu parler et lui a peut-être même parlé avant cette rencontre. Nicodème, il est important, il est toujours dans la synagogue de prêcher, etc. Et probablement, Jésus est venu de le voir des fois. Il a écouté des fois aussi. Mais Nicodème a aussi écouté Jésus. Il a entendu les histoires de Jésus. Mais cette histoire commence avec Nicodème qui vient à Jésus sous le couvert de la nuit. Soir, il ne voulait pas être vu en train de rendre visite à Jésus. Soir, il voulait passer un temps ininterrompu avec lui. Et je crois que c'est le dernier. Parce qu'il était une pharisienne. Et si les pharisiens veulent dire quelque chose, c'est dans le public. Et souvent, avec agression, avec force. Mais il est venu de voir Jésus pour parler avec lui. Alors, pourquoi voulait-il aller voir Jésus? Il a vu quelque chose en Jésus, ou bien il a entendu certains enseignements sur Jésus, ou encore l'autorité avec laquelle Jésus parle a dû le faire réfléchir à deux fois. Il y était quelque chose en Jésus. Il a vu et dans son âme, il pense il vient de Dieu. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est venu et qui prêche et qui parle. Mais il y a quelque chose là, je veux voir plus. On pense généralement que Nicodème voulait savoir pourquoi Jésus était là. Ça, c'est le petit question qu'il a commencé avec. Ce qu'il a découvert, en fait, a changé son monde. et sa compréhension. Il commence par essayer de flatter Jésus en reconnaissant que Dieu a dû l'envoyer. Oui, il est bon, tu es maître. Il a utilisé le mot maître, rabbi, maître, parce qu'il savait qu'il y a quelque chose en Jésus. Mais Jésus ne répond pas dans la manière attendue. Il entre immédiatement dans le vif du sujet. La réponse de Jésus semble bizarre dans le contexte. Mais Jésus regarde au-delà de la question, mais plutôt la croyance que Nicodème avait en plus profonde de son cœur sur le fait d'être accepté du ciel. Vous voyez, aux yeux des Juifs, si quelqu'un avait une place au ciel, c'était Nicodème. Il pensait qu'il fallait être né juif pour être vraiment accepté au ciel, qu'il fallait être un érudit, un enseignant, et voici Nicodème, l'une des personnes les plus importantes et les plus religieuses du pays, qui était assurée d'avoir une place dans le ciel. C'était sûr. Jésus souligne tout d'abord que ce qui compte, ce n'est pas la tribu dans laquelle on est né, mais la manière dont on est né. Nicodème a immédiatement compris ce que Jésus disait, mais n'a pas probablement pas voulu l'accepter. Car il a répondu par une question évidente sur le fait que naître de nouveau était une naissance naturelle. Il ne voulait pas entrer dans ce type de discussion, ce type de pensée. Ça, c'est pourquoi il a pris l'autre de dire oh, « c'est pas possible ». Quelqu'un d'aussi instruit que Nicodème n'aurait généralement pas répondu de cette manière. Il ne voulait pas reconnaître la réponse de Jésus. Jésus insiste davantage d'avoir exactement là où Nicodème ne voulait probablement pas aller. Nous entendons parler de la renaissance spirituelle qui est nécessaire pour aller au ciel. Jésus affirme qu'il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir la vie éternelle que de naître de l'esprit. Lorsque Jésus parle d'eau et d'esprit, il fait référence à une naissance spirituelle, à le côté eau ne fait pas référence à une naissance naturelle, mais l'eau fait plutôt référence à une purification comme celle que Jean le Baptiste faisait au chapitre 1. Il préparait les gens à la venue de Jésus et à la libération de l'esprit. Il a parlé sur Ézéchiel 36, versets 24 jusqu'à 27. En effet, après vous avoir retiré du milieu des peuples et des pays où vous vous trouvez, je vous rassemblerai et vous ramènerai dans votre patrie. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifiera de tous vos souliers, et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme un pierre qui je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Il y a Nicodème était un enseignant. Il connaît cette écriture. Il a connu toutes les écritures dans l'Ancien Testament. Quand Jésus a parlé de l'eau et l'esprit, certainement, il a pensé de ça. Lorsque nous avons étudié Jean chapitre 1, j'ai mentionné que le baptême était considéré par les Juifs, et plus particulièrement par les pharisiens, comme un droit de passage pour devenir juif. Aucun juif ne voudrait être baptisé. C'est pour cette raison qu'ils ont rejeté l'enseignement de Jean. Non seulement ils n'allaient pas être acceptés au ciel malgré tout ce qu'ils avaient fait, le salut par les œuvres, mais s'ils voulaient aller au ciel et être accepté par Dieu, il devait se faire baptiser. Une pilule amère à avaler pour lui. Le plus grand, ou une des plus grandes prêtres juifs, a besoin d'être baptisé pour aller au ciel. Ça, c'est étonnant pour lui. Étonnant. La référence au ventre n'est pas seulement un exemple pour dire que ce n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler, mais que l'on voit le résultat et les effets, mais aussi pour faire appel à la connaissance de l'Ancien Testament de Nicodème, il aurait compris l'implication spirituelle de cela. Si nous regardons dans Ézéchiel un peu plus, nous voyons une référence au ventre qui apporte la régénération. En tant qu'érudite et enseignant, il devait bien connaître ce texte et savoir à quoi Jésus faisait référence. Le Seigneur me dit alors, « Toi, qui n'es qu'un homme, parle en prophète, ou souffle de vie, oui, parle-lui de ma part et dis-lui, souffle de vie. Le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ses cadavres afin qu'il y reprenne vie. Je parlais en tant que prophète comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entre dans le cadavre qui repriront vie. Ils se dresseront sur les pierres. Ils forment une très nombreuse armée. » Jésus souligne également ici que l'acte de salut n'était pas quelque chose qui pouvait être fait pas des mains ou des actions humaines, mais plutôt uniquement sur l'œuvre souveraine de Dieu, par l'intermédiaire de l'Esprit. Un autre coup porté à l'idée et à l'état d'esprit de Nicodème. Il croyait qu'il irait au ciel par le travail de ses propres mains. Il a travaillé d'être une des plus grands prêtres des Juifs. L'Esprit viendra et ferait son travail, mais seuls les effets seraient visibles. Ce qui signifie que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler non plus. En fait, il n'y a rien qu'il peut faire dans ce cas. Nicodème, choqué au plus haut point, ne sait pas vraiment comment réagir et finit par se répéter. Comment cela est-il possible? Et à ce moment, Jésus le réprimande. Et c'est une leçon pour nous tous. Il le fait avec douceur. Il n'a pas dit, tu es fou. Non. Il a dit, tu es une des plus grandes prêtres. Sûrement, tu le connais. Malgré tout ce que nous avons appris, malgré tout ce que nous avons lu et appris sur Dieu, ce Jésus, il ne s'agit pas d'un savoir du tête. Si nous n'écoutons pas le témoignage et n'ouvrons pas notre esprit aux choses de Dieu, nous passerons à côté du salut. La connaissance du bas peut être une bonne chose, mais le témoignage est très puissante et va au-delà de la connaissance du bas, de base. Nicodème ne voulait croire que ce qu'il savait de tête. Dans le monde religieux, c'est tout dans la tête. Il n'est pas de cœur. Il n'est pas de connaissance dans l'âme. C'est tout dans la tête. Jésus vient de dire, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Et si tu prends toutes les choses dans la tête, je vais le passer. Parce que c'est pas possible de comprendre les choses seulement avec la tête. C'est avec le cœur. Parce que je suis dans le cœur. Pour Nicodème, c'était vraiment difficile. Parce qu'il a bien travaillé. Il a tout dans son tête. Mais Jésus dit non, c'est pas ça. Jésus va encore plus loin et dit qu'il n'est pas possible d'atteindre le ciel par ses propres forces et capacités et que le seul moyen et de passer par lui. Il ne donne pas ce message à légère. Le seul chemin vers le ciel passe par le Fils de l'homme qui est venu du ciel. Et lorsqu'il sera élevé, le chemin sera tracé. Jésus donne une comparaison importante que Nicodème comprendra. L'histoire est trouvée dans Nombre 21, où les Israélites avaient désobéi au Seigneur une fois de plus, et où celui-ci avait envoyé des serpents sur les Israélites. Les serpents ont mordu et tué des nombreuses personnes, mais Dieu est revenu et a offert la salut en demandant à Moïse de construire un serpent de bronze et de l'élever sur un poteau. Si vous étiez mordu, vous pouviez regarder vers l'eau et recevoir la guérison. L'acte de regarder en l'air par la foi le permettait d'être guéri. Il en va de même pour Jésus. Lorsqu'il a été placé sur une croix, et qu'il est remonté au ciel, lorsque nous regardons vers Jésus avec foi, nous sommes sauvés. Ce n'est pas les actes de Jésus que nous sommes sauvés et non par nos propres actes. Maintenant, nous arrivons ici au verset le plus cité de la Bible, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, il faut se garder de lire ce verset seul et d'ignorer le contexte du texte, parce que le verset 16 est lié au commentaire de l'histoire de Moïse. Ce n'est pas quelque chose seul. Tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze, le Christ, le Fils de Dieu, doit être élevé pour sauver ceux qui croient. En résumé, ce que Jésus dit à Nicodème est en fait le suivant. J'ai fait un peu de reformulation, oui. Tu ne comprends pas que le salut vienne de nous. Ah bien, premièrement, personne ne peut monter au ciel si ce n'est pas celui qui, le premier, descend du ciel. Le salut dont je parle et sur lequel tu t'interroges viennent de nous. Non seulement parce que Dieu l'a assuré par celui qui est descendu du ciel, mais aussi parce que c'est vers lui que les hommes doivent se tourner pour être sauvés. Le point de vue de Nicodème sur le monde a radicalement changé et a explosé. En fait, il n'y a rien écrit après ce verset de Nicodème. Peut-être il a déjà parti et dit « Oh, ça ne marche pas ». Mais le verset 16 indique que l'amour de Dieu ne s'entend pas seulement aux Juifs, mais au monde entier, y compris les païens, et que cet amour ne parvienne pas à Jésus-Christ. S'ils rejettent Jésus-Christ, ils rejetteront l'amour de Dieu. Le Nouveau Testament traite en outre assez largement de la résistance des Juifs à atteindre les païens, ce qui a parfois failli provoquer des divisions dans l'Église. Le cœur de Paul était clairement d'aller dans tout le monde et il a passé une grande partie de son temps parmi les païens. Et il a été critiqué pour cela. Je suppose qu'il est compréhensible dans une certaine mesure que les peuples choisis par Dieu, les Israélites, aient le sentiment d'être le seul à avoir le droit et l'accès à Dieu et ne veillent pas le partager. Mais je ne pense pas qu'il a le droit de l'exiger. Dieu donne son amour gratuitement et à qui il veut. Ça, c'est la différence. J'ai lu ce matin aussi Psaume 33 de David et il a dit « Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. » Oui, le peuple qui se choisit pour patrimoine. Les Juifs a pensé Dieu à eux, pas l'autre sens. Et Jésus est venu de dire, c'est pas que les Juifs. Je viens pour le monde. Je viens pour tous les peuples. La deuxième partie, Jésus mentionne explicitement ce qui arrive à ce si quelqu'un rejette Jésus et le salut, il périra. Je peux imaginer les pensées qui traversent l'esprit de Nicodème à ce stade. Il est complètement abasourdi et essaie de comprendre l'énormité de ce qui est dit. Il ne pensait pas que Jésus était un idiot. Rappelez-vous qu'il est venu à Jésus en sachant qu'il avait quelque chose de particulier, qu'il était envoyé par Dieu. L'énormité des propos de Jésus a dû peser très lourd sur l'esprit de Nicodème. Ce qui l'a le plus troublé, c'est ne peut-être pas la perte de la position exclusive des Juifs, mais plutôt le fait que les choses que Jésus avait dites étaient vraies et tangibles. Ce n'était pas un fou qui disait quelque chose, Jésus l'avait dit avec une telle profondeur et une telle perspicacité. Merci, ça c'est un mot difficile. Qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour que cela soit mal compris. La rencontre avec Nicodème se termine ici. Et nous savons que ce que Jésus a dit a eu un impact sur la vie de Nicodème. Bien que nous n'ayons aucune trace de sa conversion au christianisme, il a développé un grand respect pour Jésus. Et lorsque Jésus a été amené devant les anciens de l'Église pour être jugé, Nicodème a plaidé pour que Jésus soit jugé équitablement. Et après, le dernier récit que nous avons de Nicodème se situait après la mort de Jésus. Lorsqu'il fut l'une des personnes à descendre le corps de Jésus et à le déposer dans le tombeau. Le plus grand prêtre des Juifs à prendre son corps et placer dans un tombeau. Il a compris des choses, mais il a laissé ses pensées, des choses dans son cerveau et pas avec son cœur. Je voudrais aborder rapidement la dernière partie de chapitre 3 parce que c'est aussi assez important, qui relate une interaction avec Jean le Baptiste. Nous avons discuté en détail pendant chapitre 1 de ce que Jean faisait et pourquoi il le faisait. Maintenant que Jésus est venu, nous remarquons que Jésus ne s'est pas arrêté et n'a pas pris sa retraite. Le Sauveur est là, mais il a continué à baptiser les gens, à les purifier et à les préparer pour Jésus et pour ce qui allait se passer dans les quelques années à venir. Apparemment, un juif avait remis en question la validité du baptême de Jean, parce que Jésus était clairement loin et que les gens affluaient plutôt vers Jésus que vais-je jaune pour être baptisé? Les disciples de Jean n'étaient pas contents. Mais Jean fait preuve d'une humilité extraordinaire. Et ça, une leçon pour nous. Il savait qu'il joue un rôle important dans le plan de Dieu en orientant les gens vers le Christ. Mais il comprenait également qu'il n'était pas le centre de la mission de Dieu. Il a un rôle, il n'était pas le centre. Nous avons quelque chose à apprendre ici, dans la manière dont nous agissons et réagissons dans nos vies. En tant que chrétiens, nous ne devons pas être arrogants et nous devons l'éviter à tout prix. Jésus reste l'acteur principal. Quels que soient nos dons ou notre relation avec Dieu, c'est Jésus qui est au centre de ce plan de rédemption et non pas nous. Tous nos actes et toutes les choses que nous faisons pour l'Église, pour Dieu, doivent pointer vers lui et jamais vers nous-mêmes. Comme Jean le dit à juste titre dans les versets 29 et 30, l'épouse appartient à l'époux. L'épouse qui assiste à l'époux l'attend et l'écoute. Et elle est pleine de joie lorsqu'elle entend la voix de l'époux. Cette joie est la mienne et elle est maintenant complète. Il doit devenir plus grande. Je dois devenir moins grande. Et cela, mes frères et sœurs, devrait être notre objectif à tout moment. Merci et Amen.